Livre 2. La faute de l'abbé Mouret, chapitre 7. Albine et Serge entrèrent dans le parterre. Elle le regardait avec une sollicitude inquiète, craignant qu'il ne se fatiguât. Mais lui la rassura d'un léger rire. Il se sentait fort à la porter partout où elle voudrait aller. Quand il se retrouva en plein soleil, il eut un soupir de joie. Enfin, il vivait. Il n'était plus cette plante soumise aux agonies de l'hiver. Aussi, quelle reconnaissance attendrie. Il aurait voulu éviter aux petits pieds d'Albine la rudesse des allées. Il rêvait de la prendre à son cou comme un enfant que sa mère endort. Déjà, il la protégeait en gardien jaloux, écartait les pierres et les ronces, veillait à ce que le vent ne volât pas sur ses cheveux adorés des caresses qui n'appartenaient qu'à lui. Elle s'était blottie contre son épaule, elle s'abandonnait, pleine de sérénité. Ce fut ainsi qu'Albine et Serge marchèrent dans le soleil pour la première fois. Le couple laissait une bonne odeur derrière lui. Il donnait un frisson au sentier tandis que le soleil déroulait un tapis d'or sous ses pas. Il avançait, pareil à un ravissement entre les grands buissons fleuris, si désirable que les allées écartées au loin l'appelaient, le saluaient d'un murmure d'admiration, comme les foules saluent les rois longtemps attendus. Ce n'était qu'un être souverainement beau. La peau blanche d'Albine n'était que la blancheur de la peau brune de Serge. Ils passaient lentement, vêtus de soleil. Ils étaient le soleil lui-même. Les fleurs penchées les adoraient. Dans le parterre, ce fut alors une longue émotion. Le vieux parterre leur faisait escorte. Vaste champ, poussant à l'abandon depuis un siècle, coin de paradis où le vent semait les fleurs les plus rares. L'heureuse paix du paradou, dormant au grand soleil, empêchait la dégénérescence des espèces. Il y avait là une température égale, une terre que chaque plante avait longuement engraissée pour y vivre dans le silence de sa force. La végétation y était énorme, superbe, puissamment inculte, pleine de hasards qui étalaient des floraisons monstrueuses, inconnues à la bêche et aux arrosoirs des jardiniers. Laissée à elle-même, libre de grandir sans honte au fond de cette solitude que des abris naturels protégeaient, la nature s'abandonnait davantage à chaque printemps, prenait des ébats formidables, s'égayait à s'offrir en toute saison des bouquets étranges qu'aucune main ne pouvait cueillir. Et elle semblait mettre une rage à bouleverser ce que l'effort de l'homme avait fait. Elle se révoltait, lançait des débandades de fleurs au milieu des allées, attaquait les rocailles du flot montant de ses mousses, nouait au cou les marbres qu'elle abattait à l'aide de la corde flexible de ses plantes grimpantes. Elle cassait les dalles des bassins, des escaliers, des terrasses, en y enfonçant des arbustes. Elle rampait jusqu'à ce qu'elle possédât les moindres endroits cultivés, les pétrissait à sa guise, y plantait comme drapeau de rébellion quelques graines ramassées en chemin, une verdure humble dont elle faisait une gigantesque verdure. Autrefois, le parterre entretenu pour un maître qui avait la passion des fleurs montrait en plate-bande, en bordure soignée, un merveilleux choix de plantes. Aujourd'hui, on retrouvait les mêmes plantes, mais perpétuées, élargies en familles si innombrables, courant une telle prétentaire aux quatre coins de jardin que le jardin n'était plus qu'un tapage, une école buissonnière battant les murs, un lieu suspect où la nature ivre avait des hoquets de verveine et de hais. C'était Albine qui conduisait Serge. Bien qu'elle parût se livrer à lui, faible, soutenue à son épaule. Elle le mena d'abord à la grotte. Au fond d'un bouquet de peupliers et de saules, une rocaille se creusait, effondrée, des blocs de rochers tombaient dans une vasque, des filets d'eau coulant à travers les pierres. La grotte disparaissait sous l'assaut des feuillages. En bas, des rangées de roses trémières semblaient barrer l'entrée d'une grille de fleurs rouges, jaunes, mauves, blanches, dont les bâtons se noyaient dans des orties colossales, d'un vert de bronze, suant tranquillement les brûlures de leur poison. Puis, c'était un élan prodigieux, grimpant en quelques bonds. Les jasmins étoilés de leurs fleurs suaves, les glycines aux feuilles de dentelle tendres, les lierres épais, découpés comme de la tôle vernie, les chèvrefeuilles souples, criblées de leurs brins de corail pâle, les clématites amoureuses, allongeant les bras, pomponnées d'aigrettes blanches, et d'autres plantes, plus frêles, s'enlaçaient encore à celles-ci, les liaient davantage, les tissaient d'une trame odorante. Des capucines aux chairs verdâtres et nues ouvraient des bouches d'or rouge. Des haricots d'Espagne, forts comme des ficelles minces, allumaient de place en place l'incendie de leur étincelle vive. Des volubilis élargissaient le cœur découpé de leurs feuilles, sonnaient de leurs milliers de clochettes un silencieux carillon de couleurs exquises. Des pois de senteur, pareils à des vols de papillons posés, repliaient leurs ailes fauves, leurs ailes roses, prêtes à se laisser emporter plus loin par le premier souffle de vent. Chevelure immense de verdure, piquée d'une pluie de fleurs, dont les mèches débordaient de toutes les parts, s'échappaient en un échevellement fou, faisaient songer à quelques filles géantes, pâmées au loin sur les reins, renversant la tête dans un spasme de passion, dans un ruissellement de crins superbes, étalés comme une mare de parfums. « Jamais je n'ai osé entrer dans tout ce noir, » dit Albine à l'oreille de Serge. Il l'encouragea. Il la porta par-dessus les orties et comme un bloc fermait le seuil de la porte, il atteint un instant debout entre ses bras pour qu'elle pût se pencher sur le trou béant à quelques pieds du sol. « Il y a, » murmura-t-elle, « une femme de marbre tombée tout de son long dans l'eau qui coule. L'eau lui a mangé la figure. » Alors, lui voulut voir à son tour. Il se haussa à l'aide des poignets. Une haleine fraîche le frappa aux joues. Au milieu des joncs et des lentilles d'eau, dans le rayon de jour glissant du trou, la femme était sur l'échine, nue jusqu'à la ceinture, avec une draperie qui lui cachait les cuisses. C'était quelque noyé de son temps, le lent suicide d'un marbre que des peines avaient dû laisser choir au fond de cette source. La nappe claire qui coulait sur elle avait fait de sa face une pierre lisse, une blancheur sans visage, tandis que ses deux seins, comme soulevés hors de l'eau par un effort de la nuque, restaient intacts, vivants encore, gonflés d'une volupté ancienne. « Elle n'est pas morte, va, » dit Serge en redescendant. « Un jour, il faudra venir la tirer de là. » Mais Albine, qui avait un frisson, l'emmena. Ils revinrent au soleil, dans le dévergondage des plates-bandes et des corbeilles. Ils marchaient à travers un pré de fleurs, à leur fantaisie, sans chemin tracé. Leurs pieds avaient pour tapis des plantes charmantes. Les plantes naines bordant jadis les allées, aujourd'hui étalées en nappes sans fin. Par moments, ils disparaissaient jusqu'aux chevilles dans la soie mouchetée des silènes roses, dans le satin panaché des œillets mignardises, dans le velours bleu des myosotis, criblés de petits yeux mélancoliques. Plus loin, ils traversaient des résédas gigantesques qui leur montaient aux genoux comme un bain de parfum. Ils coupaient par un champ de muguet pour épargner un champ voisin de violettes, si douces qu'ils tremblaient d'en meurtrir la moindre touffe. Puis, pressés de toutes parts, n'ayant plus que des violettes autour d'eux, ils étaient forcés de s'en aller à pas discrets sur cette fraîcheur embaumée au milieu de la laine même du printemps. Au-delà des violettes, la laine verte des lobélies se déroulait, un peu rude, piquée de mauve clair. Les étoiles nuancées des sélaginoïdes, les coupes bleues des némophiles, les croix jaunes des saponaires, les croix roses et blanches des juliennes de Mahon dessinaient des coins de tapisserie riches, étendaient à l'infini devant le couple un luxe royal de tenture pour qu'il s'avançât sans fatigue dans la joie de sa première promenade. Et c'étaient les violettes qui revenaient toujours, une mer de violettes coulant partout, leur versant sur les pieds des odeurs précieuses, les accompagnant du souffle de leurs fleurs cachées sous les feuilles. Albine et Serge se perdaient. Mille plantes de taille plus haute bâtissaient des haies, ménageaient des sentiers étroits qu'ils se plaisaient à suivre. Les sentiers s'enfonçaient avec de brusques détours, s'embrouillaient, emmêlaient des bouts de taillis inextricables, des ageratums à houppettes bleu céleste, des aspérules d'une délicate odeur de musc, des mimulus montrant des gorges cuivrées, ponctuées de cinabres, des phlox écarlates, des phlox violets, superbes, dressant des quenouilles de fleurs que le vent filait, des lins rouges aux brins fins comme des cheveux, des chrysanthèmes pareils à des lunes pleines, des lunes d'or dardant de courts rayons éteints, blanchâtres, violâtres, rosâtres. Le couple enjambait les obstacles, continuait sa marche heureuse entre les deux haies de verdure. À droite, montaient les fraxinelles légères, les centranthus retombant en neige immaculée, les cynoclos grisâtres ayant une goutte de rosée dans chacune des coupes minuscules de leurs fleurs. À gauche, c'était une longue rue d'encolis, toutes les variétés de l'encolie, les blanches, les roses pâles, les violettes sombres, ces dernières presque noires d'une tristesse de deuil, laissant pendre d'un bouquet de hautes tiges leurs pétales plissés et gaufrés comme un crêpe. Et plus loin, à mesure qu'ils avançaient, les haies changeaient, alignaient les bâtons fleuris de pieds d'alouette énormes, perdus dans la frisure des feuilles, laissaient passer les gueules ouvertes des mufliers fauves, haussaient le feuillage grêle des schizanthus, plein de papillonnages de fleurs aux ailes de soufre tachées de laque tendre. Des campanules couraient, lançant leurs cloches bleues à toute volée jusqu'au haut de grands asphodèles, dont la tige d'or leur servait de clocher. Dans un coin, un fenouil géant ressemblait à une dame de fine guipure renversant son ombrelle de satin vert d'eau. Puis, brusquement, le couple se trouvait au fond d'une impasse. Il ne pouvait plus avancer. Un tas de fleurs bouchait le sentier, un jaillissement de plantes telles qu'il mettait là comme une meule à panache triomphal. En bas, des acanthes bâtissaient un socle d'où s'élançaient des benoîtes écarlates, des rodentes dont les pétales secs avaient des cassures de papier peint. Des clarkias, aux grandes croix blanches ouvragées, semblables aux croix d'un ordre barbare. Plus haut s'épanouissaient les viscarias roses, les leptosiphons jaunes, les colinsias blancs, les lagurus plantant parmi les couleurs vives leurs pompons de cendre verte. Plus haut encore, des digitales rouges, des lupins bleus s'élevaient en colonnettes minces, suspendant une rotonde byzantine, peinturlurée violemment de pourpre et d'azur. Tandis que, tout en haut, un ricin colossal aux feuilles sanguines semblait élargir un dôme de cuivre bruni. Et comme Serge avançait déjà les mains, voulant passer, Albine le supplia de ne pas faire de mal aux fleurs. « Tu casserais les branches, tu écraserais les feuilles, » dit-elle. « Moi, depuis des années que je vis ici, je prends bien garde de ne tuer personne. Viens, je te montrerai les pensées. » Elle l'obligea à revenir sur ses pas. Elle l'emmena hors des sentiers étroits, au centre du parterre où se trouvaient autrefois de grands bassins. Les bassins comblés n'étaient plus que de vastes jardinières à bordure de marbre émietté et rompu. Dans un des plus larges, un coup de vent avait semé une merveilleuse corbeille de pensées. Les fleurs de velours semblaient vivantes, avec leurs bandeaux de cheveux violets, leurs yeux jaunes, leurs bouches plus pâles, leurs délicats montants couleur chair. « Quand j'étais plus jeune, elle me faisait peur, » murmura Albine. « Voilà donc, ne dirait-on pas des milliers de petits visages qui vous regardent à ras de terre ? Et elles tournent leurs figures tout ensemble. On dirait des poupées enterrées qui passent la tête. » Elle l'entraîna de nouveau. Ils firent le tour des autres bassins. Dans le bassin voisin, des amarantes avaient poussé hérissant des crêtes monstrueuses qu'Albine n'osait toucher, songeant à de gigantesques chenilles saignantes, des balsamines, jaune paille, fleurs de pêcher, gris de lin, blanc lavé de rose, emplissaient une autre vasque où les ressorts de leurs graines partaient avec de petits bruits secs. Puis c'était au milieu des débris d'une fontaine une collection d'œillets splendides. Des œillets blancs débordés de lauges moussues. Des œillets panachés plantés dans les fentes des pierres le bariolage de leurs ruches de mousseline découpées. Tandis que, au fond de la gueule du lion qui jadis crachait l'eau, un grand œillet rouge fleurissait en jets si vigoureux que le violon mutilé semblait à cette heure cracher des éclaboussures de sang. Et à côté, la pièce d'eau principale. Un ancien lac où les cygnes avaient nagé était devenu un bois de lilas à l'ombre duquel des quarantaines, des verveines, des belles de jour protégeaient leur teint délicat, dormant à demi, toutes moites de parfum. Et nous n'avons pas traversé la moitié du parterre, dit Albine orgueilleusement. Là-bas sont les grandes fleurs des champs où je disparaissais tout entière comme une perdrix dans un champ de blé. Ils y allèrent. Ils descendirent un large escalier dont les urnes renversées flambaient encore des hautes flammes violettes des iris. Le long des marches coulait un ruissellement de giroflées, pareil à une nappe d'or liquide. Des chardons aux deux bords plantaient des candélabres de bronze vert, grêles, hérissés, recourbés au bec d'oiseaux fantastiques, d'un art étrange, d'une élégance de brûle-parfum chinois. Des sédums, entre les balustres brisés, laissaient pendre des tresses blondes, des chevelures verdâtres de fleuves, toutes tachées de moisissures. Puis au bas, un second parterre s'étendait, coupé de buis puissants comme des chênes, d'anciens buis corrects, autrefois taillés en boules, en pyramides, en tours octogonales, aujourd'hui débraillés magnifiquement, avec de grands haillons de verdure sombre dont les trous montraient des bouts de ciel bleu. Et Albine mena Serge à droite, dans un champ qui était comme le cimetière du parterre. Des scabieuses y mettaient leur deuil, des cortèges de pavots s'en allaient à la file, puant la mort, épanouissant leurs lourdes fleurs d'un éclat fiévreux. Des anémones tragiques faisaient des foules désolées, au teint meurtri, tout terreux de quelque souffle épidémique. Des darutas trapus élargissaient leurs cornets violâtres, où des insectes, las de vivre, venaient boire le poison du suicide. Des soucis, sous leur feuillage engorgé, ensevelissaient leurs fleurs. Des corps d'étoiles agonisant, exhalant déjà la peste de leur décomposition, et c'était encore d'autres tristesses. Les renoncules charnus d'une couleur sourde de métal rouillé. Les jacinthes et les tubéreuses, exhalant l'asphyxie, se mourant dans leur parfum. Mais les cinéraires surtout dominaient. Toute une poussée de cinéraires qui promenaient le demi-deuil de leurs robes violettes et blanches, robes de velours rayées, robes de velours unies d'une sévérité riche. Au milieu du champ mélancolique, un amour de marbre restait debout, mutilé, le bras qui tenait l'arc tombé dans les orties, souriant encore sous les lichens dont la nudité d'enfant grelottait. Puis Albine et Serge entrèrent jusqu'à la taille dans un champ de pivoine. Les fleurs blanches crevaient avec une pluie de larges pétales qui leur rafraîchissaient les mains, pareilles aux gouttes larges d'une pluie d'orage. Les fleurs rouges avaient des faces apoplectiques, dont le rire énorme les inquiétait. Ils gagnèrent, à gauche, un champ de fuchsia, un taillis d'arbustes souples, déliés, qui les ravirent comme des joujoux du Japon, garnis d'un million de clochettes. Ils traversèrent ensuite des champs de véronique aux grappes violettes, des champs de géranium et de pélacornium sur lesquels semblaient courir des flamèches ardentes, le rouge, le rose, le blanc incandescent d'un brasier que les moindres souffles du vent ravivaient sans cesse. Ils durent tourner des rideaux de glaïeuls aussi grands que des roseaux, dressant des hampes de fleurs qui brûlaient dans la clarté avec des richesses de flammes de torches allumées. Ils s'égarèrent au milieu d'un bois de tournesol, une futaie faite de troncs aussi gros que la taille d'Albine, obscurcie par des feuilles rudes, large à y coucher un enfant peuplé de faces géantes, de faces d'astres resplendissantes comme autant de soleil. Et ils arrivèrent enfin dans un autre bois, un bois de rhododendrons si touffu de fleurs que les branches et les feuilles ne se voyaient pas, étalant des bouquets monstrueux, des hautées de calices tendres qui moutonnaient jusqu'à l'horizon. « Va, nous ne sommes pas au bout !» s'écria Albine. « Marchons, marchons toujours !» Mais Serge l'arrêta. Ils étaient alors au centre d'une ancienne colonnade en ruine. Des fûts de colonnes faisaient des bancs parmi des touffes de primevères et de pervenches. Au loin, entre les colonnes restées debout, d'autres champs de fleurs s'étendaient. Des champs de tulipes aux vives panachures de faïence peinte, des champs de calcéolaires, légères, soufflures de chair ponctuées de sang et d'or, des champs de zinnia, pareils à de grosses pâquerettes courroucées, des champs de pétunia aux pétales mous comme une batiste de femme montrant le rose de la peau, des champs encore, des champs à l'infini dont on ne reconnaissait plus les fleurs, dont les tapis s'étalaient sous le soleil, avec la bigarrure confuse des touffes violentes noyées dans les verts attendris des herbes. « Jamais nous ne pourrons tout voir, » dit Serge, la main tendue avec un sourire. « C'est ici qu'il doit être bon de s'asseoir dans l'odeur qui monte. » À côté d'eux était un champ d'héliotropes, d'une haleine de vanille si douce qu'elle donnait au vent une caresse de velours. Alors ils s'assirent sur une des colonnes renversées au milieu d'un bouquet de lys superbe qui avait poussé là. Depuis plus d'une heure, ils marchaient. Ils étaient venus des roses dans les lys, à travers toutes les fleurs. Les lys leur offraient un refuge de candeur après leur promenade d'amants au milieu de la sollicitation ardente des chèvrefeuilles suaves, des violettes musquées, des verveines exhalant l'odeur fraîche d'un baiser, des tubereuses soufflant la pâmoison d'une volupté mortelle. Les lys aux tiges élancées les mettaient dans un pavillon blanc sous le toit de neige de leur calice, seulement égayé des gouttes d'or légères des pistils. Et ils restaient, ainsi que des fiancés enfants, souverainement pudiques, comme au centre d'une tour de pureté, d'une tour d'ivoire inattaquable où ils ne s'aimaient encore que de tout le charme de leur innocence. Jusqu'au soir, Albine et Serge demeurèrent avec les lys. Ils y étaient bien. Ils achevaient d'y naître. Serge y perdait la dernière fièvre de ses mains. Albine y devenait toute blanche, d'un blanc de lait qu'aucune rougeur ne teintait de rose. Ils ne virent plus qu'ils avaient les bras nus, le cou nu, les épaules nues. Leurs chevelures ne les troublèrent plus comme des nudités déployées. L'un contre l'autre, ils riaient d'un rire clair, trouvant de la fraîcheur à se serrer. Leurs yeux gardaient un calme limpide d'eau de source, sans que rien d'impur montât de leur chair pour en ternir le cristal. Leurs joues étaient des fruits veloutés, à peine mûrs, auxquels ils ne songeaient point à mordre. Quand ils quittèrent les lys, ils n'avaient pas 10 ans. Il leur semblait qu'ils venaient de se rencontrer, seuls, au fond du grand jardin pour y vivre dans une amitié et dans un jeu éternel. Et comme ils traversaient de nouveau le parterre, rentrant au crépuscule, les fleurs parurent se faire discrètes, heureuses de les avoir vues si jeunes, ne voulant pas débaucher ses enfants. Les bois de pivoine, les corbeilles d'œillets, les tapis de myosotis, les tentures de clématite n'agrandissaient plus devant eux une alcôve d'amour, noyés à cette heure de l'air du soir, endormis dans une enfance aussi pure que la leur. Les pensées les regardaient en camarades de leurs petits visages candides. Les résédas, alanguis, frôlés par la jupe blanche d'Albine, semblaient pris de compassion, évitant de hâter leur fièvre d'un souffle.